Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des radios Vassivières. Je vous souhaite la bienvenue à ces directs depuis l'île des Vassivières où la nature aujourd'hui est au rendez-vous, un véritable invité d'honneur. Pendant 12 heures, nous allons partir à la découverte des plantes aromatiques et médicinales, rencontrer celles et ceux qui les cultivent avec passion, comprendre leurs usages et découvrir pourquoi elles occupent encore aujourd'hui une place essentielle dans notre quotidien.
Et cette édition de l'été des simples est passée sous le thème des plantes, des femmes et de la santé. Un fil conducteur qui met à l'honneur les savoirs transmis de génération en génération, le rôle essentiel des femmes dans l'histoire des plantes médicinales, ainsi que les liens étroits entre les plantes, le soin, le bien-être et la santé. L'été des simples est un rendez-vous unique en Limousin, producteurs, herboristes, artisans, botanistes, cueilleurs, amoureux de la nature se retrouvent pour partager leurs connaissances autour d'un même objectif, mieux connaître les plantes et mieux comprendre le vivant.
Au programme, des rencontres, des démonstrations, des balades, des conférences, stages de vannerie, des conseils, des anecdotes et peut-être quelques idées pour regarder autrement les plantes qui poussent autour de chez vous. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et bienvenue sur les ondes des radios Vassivières pour ce direct au cœur de l'été des simples. Je présente mon équipe, Fabien qui co-anime avec moi.
Coucou Fab. Bonjour.
Salut, la forme.
Oui, ça va.
Et notre technicien de choc, Didou, et l'ombre de la sombre. Comment ça, Didou?
Bah, toujours bien, Didou.
Ah oui, toujours. Un plaisir.
Et on va commencer avec notre première invitée, c'est Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Tu fais partie de l'équipe de l'été des simples.
Oui, tout à fait.
Et j'imagine aussi du syndicat des simples.
Oui, je suis adhérente productrice de plantes médicinales. Et voilà, je me suis beaucoup investie au syndicat des simples et dans l'organisation de l'été des simples depuis le début de l'aventure.
On est sur l'île de Vassivières, le cadre est magnifique, la journée est parfaite aujourd'hui, il fait ni trop chaud ni trop froid,
on est très bien. Pas d'orage prévu, incroyable,
ouais, c'est vraiment
magnifique.
Parfait. Et donc on va parler un petit peu du riche programme de cette journée. Donc il y a plein de choses, il va y avoir des ateliers, des balades, des conférences, des démonstrations, il y a un marché toute la journée, les stages, je crois que c'est un peu tard pour les stages.
Les stages de vannerie,
de vannerie,
oui, il y en a une partie hier, il y a un autre stage qui se déroule aussi toute la journée.
Mais on parlera quand même avec, comment il s'appelle Nini?
Mathieu Thuré.
Avec Mathieu, on parlera un petit peu de vannerie tout à l'heure. Donc Audrey, j'aimerais bien un peu que tu nous parles un peu, déjà un peu du syndicat des simples. Déjà, le terme simple, c'est quoi exactement? Ça désigne quoi précisément?
Alors, simple, c'est un terme qui désigne les plantes médicinales dans leur usage populaire. Un peu à l'opposé des médicaments composés de centaines de plantes qu'on appelait les thériaques à l'époque. Les simples, c'était les plantes utilisées en l'état par le peuple.
Oui, c'est ça. Il y a une notion de populaire. C'est d'ailleurs une médecine qui est valable dans les, on va dire, les pays du Sud entre guillemets. C'est toujours très utilisé encore.
Oui. Il y a beaucoup de savoirs traditionnels autour des plantes. Alors on en a peut-être perdu un peu chez nous, mais ça reste encore tenace et on est là pour continuer à les transmettre.
C'est les plantes qu'on trouve dans le jardin, qui poussent toutes seules, qui sont là sur les bords des chemins et qui peuvent nous faire du bien, en fait, c'est ça, quoi.
Exactement, il y a énormément de plantes sauvages qui sont médicinales et que l'on récolte dans la nature autour de chez nous, dans les prairies, dans les bois, dans les zones humides. Et après, en effet, il y a des plantes que l'on ne trouve pas forcément dans la nature et qu'on va cultiver. Donc on est à la fois producteur et cueilleur.
D'accord. Et justement, alors, le syndicat des simples, c'est une organisation qui regroupe... les cueilleurs, producteurs, c'est un peu ça l'idée, j'imagine.
Alors le syndicat des simples a été créé en 1982 par des producteurs. C'est un peu le renouveau de ce métier qui avait été un peu abandonné, notamment ensuite aussi à l'arrêt en 1941 de la pratique de l'herboristerie. Donc il y avait un peu périclité. Et il y a eu comme un renouveau dans l'installation et l'envie de faire renaître ce métier dans les années 80. Et donc c'est une poignée de producteurs qui s'est organisée pour créer ce syndicat et se regrouper autour d'un cahier des charges rigoureux qui définit la pratique tant sur la cueillette, la culture, la transformation des plantes médicinales pour avoir des produits de qualité.
C'est un syndicat qui regroupe tous ces corps de métier, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. On a à la fois, on trouvera des personnes qui font uniquement de la cueillette, uniquement de la culture, des personnes qui font de la distillation, d'autres qui fabriquent des cosmétiques. En tout cas, ce qui nous unit, c'est vraiment la culture et la cueillette, et ou la cueillette des plantes et leur transformation, et la vente en circuit court, donc directement au consommateur.
Et donc ensemble, vous cherchez à aussi transmettre, à faire des actions pour faire connaître ces métiers et parler des plantes, comme aujourd'hui avec l'été des simples.
Exactement, la transmission, c'est un des trois piliers de notre action syndicale. Donc il y a la préservation, préserver, pour participer à essayer de préserver nos milieux naturels qui sont pour nous et pour l'humanité entière une ressource indispensable à notre survie.
Parce que les cueilleurs, ils vont dans des espaces sauvages.
Exactement, qui sont malheureusement parfois détruits, pollués. Et donc c'est un vrai engagement de faire connaître cet aspect, on va dire, d'utilité, autrement que ce qu'on peut connaître aussi par rapport à la protection de l'environnement. Mais vraiment, il y a une utilité à préserver ces milieux, en tout cas pour la cueillette de plantes sauvages médicinales. Et puis ensuite, on a le côté résister pour arriver à continuer à exister en tant que paysan arboriste. On se nomme aussi comme ça dans un paysage de plus en plus industrialisé. Le troisième pilier, c'est la transmission, donc transmettre nos savoirs traditionnels, populaires auprès du grand public afin de rendre un peu les gens autonomes, que ce soit sur la découverte, la reconnaissance des plantes, faire ses propres cueillettes, faire ses propres transformations. Sur la fête aujourd'hui, on a eu un atelier sur la fabrication d'un baume à base de plantes médicinales. Donc c'est des choses qui nous tiennent à cœur de pouvoir transmettre.
Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école, on va dire, de cueilleurs ou de producteurs de plantes. Comment ça se passe un peu, justement, l'enseignement, puisque il n'y a plus de diplôme d'herboriste.
Donc c'est un métier qui est agricole.
Oui,
voilà.
D'accord.
Donc il y a des écoles agricoles qui proposent des diplômes qu'on appelle des brevets professionnels responsables d'exploitation agricole. Donc certains d'entre nous sont passés par cette phase-là d'apprentissage au travers d'organismes de formation. Et puis après, il y a quand même pas mal de gens qui s'installent aussi juste avec la pratique au travers de stages chez des producteurs déjà installés.
D'accord.
Donc il y a quand même une transmission aussi entre nous de nos savoir-faire par rapport à ce métier.
Toi, tu as été formé comment, toi ?
Eh bien, un peu les deux. J'ai commencé par faire du woofing dans des fermes, d'accord, chez des producteurs qui étaient installés. Et puis après, l'année suivante, j'ai fait un BPROA, donc un brevet responsable d'exploitation agricole, dans un CFPPA, donc c'est des centres de formation pour adultes, dans la Drôme.
Un petit mot sur le terme woofing, parce que peut-être que tout le monde ne connaît
ce terme. Woofing, c'est un peu des stages où on découverte, qui ne sont pas forcément dans un cadre scolaire, où on va donner un coup de main en échange de transmission de savoir.
Pour apprendre sur le terrain.
Pour apprendre sur le terrain, directement.
Okay. Ouais, c'est une bonne façon d'apprendre.
Exactement.
Alors, on va commencer un petit peu à parler plus précisément de cette journée, l'été des simples. Il va y avoir plein d'ateliers. Et on va peut-être commencer par le thème général, parce que c'est quand même important de parler de ça, les plantes et les femmes. On va en parler plus précisément tout à l'heure avec Thierry Thévenin, qui va d'ailleurs animer une conférence sur les plantes et les femmes en Limousin. Pourquoi vous avez choisi ce thème précisément,
Donc dans l'équipe organisatrice, on est une dizaine de productrices à participer, à s'investir. Donc c'est vraiment ultra féminin, uniquement féminin. Et on est toutes à des périodes de notre vie, soit être maman, soit être en période de périménopause. Et c'est des questions qui nous touchent personnellement. Okay. Et on avait envie de pouvoir s'offrir la possibilité d'accueillir des intervenants qui peuvent parler sur ce sujet de la santé des femmes à différents période de la vie et le lien avec les plantes médicinales et comment utiliser les plantes médicinales à ces différentes phases, que ce soit l'arrivée des règles et les problématiques liées aux menstruations ou tout ce qui est périménopause, grossesse, etc. Donc on a fait ce choix un peu, c'était assez évident pour nous qui sommes dans ces périodes-là de la vie toutes concernées là.
Ça m'a évoqué aussi un côté un peu historique aussi. Enfin, on a quand même l'image un peu entre guillemets des sorcières quand même, qui sont quand même des femmes qui travaillent beaucoup avec les plantes et qui ont été un peu malmenées par la masculinisation quand c'est devenu un peu scientifique cette l'approche des plantes. Il y a peut-être aussi ce côté-là qui est quand même aussi important à souligner, quoi.
Ben, en effet, même juste pour repréciser, au sein du syndicat Simple, je pense que j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a entre 60 et 70% de femmes qui sont installées comme cueilleuses productrices. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est vraiment lié aux soins de la famille et qui a longtemps été porté par les femmes, qui n'avaient pas de statut véritable, parce que pas le droit d'avoir de statut autrement que celle d'être la femme d'eux, et du coup qui prenaient soin de leur famille avec les plantes, avec les simples. Et c'est quelque chose qu'on avait envie aussi de mettre en avant. Et la conférence de Thierry Thévenin parlera plus précisément aussi de l'aspect botanique, donc les femmes botanistes qui ont permis de contribuer à faire progresser la science sur les connaissances botaniques et qui ont complètement été zappées de l'histoire de la botanique. Okay. En fait, c'est vrai qu'il y a vraiment une occultation volontaire du rôle des femmes dans la santé, les plantes et la botanique.
Et oui, je voulais faire écho juste Fab et Audrey, et au-delà de cette image de la sorcière et tout, il y a aussi l'image des mamans, des grand-mères aussi, il y a toujours eu cet attachement au jardin, aux plantes pour soigner, un bobo pour apaiser, donc c'est aussi quelque chose qui fait écho à ces rôles féminins, de garder la maison, de prendre soin de ses enfants ou de la famille.
On parle des remèdes de grand-mère, d'ailleurs.
Tout à fait,
c'est vraiment
carrément
un terme qu'on utilise beaucoup.
Et les plantes médicinales, on parle de plantes aromatiques et médicinales, les plantes, avant tout, on les mange, quoi. C'est quand même une nourriture qui se retrouve dans les différentes recettes, le bouquet garni dans la viande, toutes les aromatiques qu'on peut mettre dans les plats. En fait, ça, c'est déjà un pas vers prendre soin de sa santé en incluant les plantes médicinales dans son alimentation. Et c'est vrai que c'est un rôle qui est souvent dévolu aux femmes, qui a souvent été dévolu aux femmes. Voilà.
Si vous n'êtes pas très loin de Lille, autour du lac, il est encore temps pour venir voir la conférence de Thierry Thévenin, ça sera à partir de 16h. C'est au château, en fait, c'est ça.
C'est ça,
hein.
On se rend au château et il y a un espace accueil où des gentils bénévoles dévoués orienteront le public.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Toutes les conférences de la journée. Alors, il y avait une conférence, c'était ce matin, sur les abeilles sauvages. Mais nous, on en parlera un petit peu avec l'OPIE, l'OPI, je crois qu'on dit. On parlera de ça. Mais très bientôt, à 14h30, il y a Jean-Pierre Scherer qui a fait une conférence sur le langage discret des plantes. Tu as un petit mot à nous en dire, Audrey ?
Jean-Pierre, c'est un habitué de l'été des simples. Je crois qu'il est là depuis le début à venir partager son savoir. Donc, c'est un passionné de plantes, botaniste, qui a beaucoup travaillé aussi sur l'étymologie, l'origine des noms des plantes et aussi leur aspect bio-indicateur, donc pourquoi les plantes elles poussent à tel endroit et quels sont leurs rôles notamment en agronomie. Donc c'est quelqu'un de passionné et passionnant qui là va aborder un sujet un peu plus nouveau. En tout cas, on l'avait encore jamais eu, cette conférence, c'est un peu un peu une exclusivité.
C'est infini hein, comme sujet, les plantes,
oui.
En fait. On s'en rend pas compte.
Infini et passionnant, hein, attention. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit, c'est Didou, c'est un de mes directs préférés.
Oui, c'est vrai.
Je veux tout savoir, je vais inviter tout le monde. On n'a pas assez de temps pour en parler.
Oui, on aimerait bien aussi voir tous les producteurs. Donc là, il y a un marché, il y a plein de gens qui sont présents. Tu peux faire un petit tour d'horizon rapide de qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce marché aujourd'hui.
Donc sur le marché, on va trouver en premier lieu des productrices de plantes médicinales qui vont proposer des produits très différents, des tisanes, des alcoolatures, des hydrolats, des huiles essentielles, des baumes, des macérats huileux. Il y a même une productrice de champignons médicinaux. Et puis on a aussi accueilli les vanniers, certains vanniers du Limousin qui viennent exposer parce que la vannerie c'est aussi nos paniers de cueillette.
Ouais.
On a la chance de pouvoir se les procurer auprès de nos amis vanniers. Et donc c'est deux métiers qui sont fortement en lien.
C'est votre outil de travail quoi.
C'est ça. Et exactement. Et on a d'autres artisans de poterie, il y a des libraires. On essaie d'avoir une petite diversité de produits, d'associations, d'artisans autour des plantes et de leurs utilisations. Quoi.
Il y a aussi quelques organismes, il y a le parc qui
Tout
est
à
là,
fait.
Et le centre d'art. Au centre d'art, il y a une exposition, hein, c'est ça hein,
Tout à fait, éco-plantes justement.
C'est ça, une exposition sur cueillir la couleur. Et ce matin, c'était Chantal Ballot, qui est productrice sur Rémoutier, productrice de plantes, qui proposait une balade botanique pour la découverte des plantes tinctoriales. Suivi d'une visite de l'exposition proposée par le Centre d'art. Donc chaque année, on essaye de proposer une animation en lien avec le Centre d'art qui nous accueille et nous soutient aussi dans l'organisation de cet événement.
Très bien. Il y a des ateliers. Alors, j'ai pas les horaires, donc il faut que tu me dises un petit peu ce qui est encore temps d'aller
reste,
voir.
Oui.
Donc dans les ateliers, il y a cet après-midi une démonstration de teinture végétale.
D'accord.
Avec les plantes. Ouais. Et puis il y a aussi un atelier sur la cuisine, la dégustation des plantes sauvages. Donc comment intégrer les plantes sauvages dans la cuisine.
Ah oui, ça c'est passionnant.
Voilà. Et ça c'est très bientôt.
C'est fou. Ça c'est complètement fou.
C'est incroyable.
C'est des saveurs qu'on ne connaît pas. C'est vraiment complètement incroyable.
Et
vraiment.
Des plantes qu'on retrouve partout.
Ben oui, c'est ça.
Oui. Oui, des plantes qu'on a sous nos pieds et qu'on ignore parfois, tout simplement parce qu'on n'a pas conscience qu'on pourrait les utiliser soit dans notre cuisine, soit pour se soigner.
Avec des saveurs subtiles et plein de nutriments aussi. Il y en a certaines qui sont... On connaît tous l'ortie, par exemple, qui est une source de vitamine C complètement... plus que les oranges, c'est complètement fou, quoi, des fois, en fait.
Ouais. Hein, y compris d'autres minéraux aussi, ouais. C'est une des plantes phares dans notre médecine de simple, dans l'alimentation, en tout cas. L'ortie à toutes les sauces.
Alors, c'est pas qu'une mauvaise herbe, hein, attention.
Ah non, il n'y a pas de mauvaise herbe.
Non, c'est ça.
Il y a pas de mauvaise herbe.
Plus on les connaît, et plus, plus on se dit que non.
Ouais, c'est vrai.
Il y en a des toxiques, par contre.
Oui, il y en a des toxiques. C'est la date dose qui fait le poison. Et puis, il y en a qui ont en effet pas d'autre rôle que de faire partie de cette diversité incroyable. Dans notre nature limousine.
Et alors je vais tendre le programme, Audrey, parce qu'il y a les balades aussi. Est-ce qu'il y en a encore cet après-midi des balades? Est-ce qu'il y a encore temps?
Oui, il y a une balade entomologique à la rencontre des abeilles sauvages qui sera proposée par Mathieu de l'OPI, l'Office pour la protection des insectes et de leur environnement, donc qui se déroulera à 15h et je crois que c'est tout.
Okay.
Pour cet après-midi en tout cas.
Ouais. Très bien. Et ben voilà, on a fait un bon petit tour. Il y avait aussi des démonstrations. Est-ce que les démonstrations de distillation et d'aquarelle, c'est passé?
Alors la démonstration d'aquarelle aura lieu à 16h.
Okay.
Et ensuite, pour la distillation, c'est Émilie Barget, qui est productrice distillatrice dans le Lot, qui a amené son alambic et elle propose de discuter. Okay. On n'a pas eu l'autorisation d'allumer le gaz à cause des risques incendies. Donc elle propose quand même de discuter, de montrer l'alambic et d'expliquer comment se passe une distillation. Et comment on produit les huiles essentielles et les hydrolats.
Je l'ai pas vu, l'alambic.
Oui,
c'est un gros alambic, c'est un gros...
Moyen, mais c'est étonnant quand même.
Okay, okay. Hein.
Moi, j'ai une dernière question, Audrey. Pour toi, pourquoi c'est important de transmettre tous ces savoir-faire, tout cet amour à la terre aussi?
Déjà, c'est une passion qu'on partage toutes et on la partage déjà entre nous. Et il y a aujourd'hui un engouement pour ce retour un peu à l'autonomie et à se réapproprier des savoir-faire simples et qui peuvent accompagner notre quotidien dans toutes les petites bobologies voilà, qu'on peut rencontrer, se fabriquer ses petites pommades, se faire une tisane, savoir reconnaître les plantes qui poussent, les plantes sauvages qui poussent dans son jardin. On a énormément de demandes là-dessus et on est heureuse de pouvoir partager ça avec le public qui vient chaque année nombreux à Vassivière.
Bah, je te remercie beaucoup Audrey. On va écouter un petit peu de musique.
Mais avec puis, plaisir. Merci à vous d'être là chaque année. Votre merci fidélité Audrey. Est toujours un plaisir.
C'est un, ouais, en tout cas, c'est
ça
toujours passionnant.
Cœur, toujours,
c'est
ouais.
passionnant, c'est passionnant. Et bah, merci beaucoup Audrey. Et bah, passe une bonne journée. Toi aussi, tu as un stand en fait, hein, c'est ça
oui, c'est ça. Moi, j'ai le stand juste à côté du
oui,
Radio Bastille.
Parfait, parfait. Allez, et bah, bonne journée. Merci.
Merci. Aussi.
À plus tard. Merci.
Et je vous propose d'écouter une petite musique. Ah tiens, Nini, c'est une petite musique qui vient de Colombie. C'est une toute nouveauté. Ouais, une toute une nouveauté. Ça, elle s'appelle Manuela Ocampo. Tu vas voir, c'est très joli. Son morceau, il s'appelle Peregrino. C'est parti.
Perdí en cuanto tuve la ilusión, fue cuestión de darle más aliento a lo que estaba muerto. Ahora que sé que estoy mejor, con la incertidumbre serán más a menos todos los silencios.
Thank you.
Et vous êtes bien à l'écoute de Radio Vassivière. On est toujours en direct de l'été des Simples sur l'île de Vassivière. On est en plein milieu du lac. Et autour de la table, je suis toujours avec Nini et nous a rejoint Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu de Flores. Et toi, tu fais partie de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement.
Exact.
Parle-nous un petit peu de cette association.
Alors on est une association de protection de la nature. À la base, on est une société savante, c'est-à-dire on est vraiment des spécialistes des insectes, on est des entomologistes. Et on est une association de protection de la nature qui existe depuis 1969, qui a été fondée par des chercheurs et puis des entomologistes amateurs qui en avaient un petit peu marre qu'on ne parle des insectes que par le côté ravageur et ceux qui nous embêtent.
Ouais.
Et en fait, nous, notre rôle, c'est en tant qu'association nationale, on est bien une association qui intervient partout en France, c'est de travailler avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, travailler avec le ministère, travailler avec les pouvoirs publics pour essayer de faire en sorte de faire changer déjà le regard sur les insectes, mais ensuite aussi de faire changer les politiques publiques et de faire en sorte qu'on les prenne mieux en compte dans ces politiques publiques.
Donne-nous un exemple, par exemple, de sur quoi vous travaillez, un dossier là, que vous avez, qui est en cours sur, avec les pouvoirs publics, justement.
Alors, par exemple, on est en charge des plans nationaux d'action en faveur des insectes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire, comme sur le loup, le lynx, etc., il y a des plans nationaux d'action sur des espèces d'insectes. Aujourd'hui, on anime, on a rédigé, on a animé et on anime le plan national d'action en faveur des libellules. Il y a quelques espèces de libellules qui sont très menacées sur le territoire français et donc on a rédigé et on anime ce plan national d'action. On fait la même chose pour le plan national d'action en faveur des papillons diurnes menacés, c'est-à-dire les espèces de papillons de jour qui sont menacés. Donc en gros, on s'occupe de rassembler les experts autour d'une table, de dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour essayer de sauvegarder ces espèces qui sont très menacées à l'échelle, à différentes échelles d'ailleurs, ça peut être à l'échelle d'un département, ça peut être à l'échelle de la France. Et ensuite, eh bien, on réfléchit ensemble à quelles actions on peut mettre en œuvre. Et on anime le fait que, en région, il va y avoir l'État qui va aller mettre en œuvre ces actions à travers ce qu'on appelle notamment les DREAL, donc qui sont les directions de l'environnement, c'est l'État déconcentré en région. Et voilà, donc nous, notre rôle, c'est de réfléchir à tout ça, de coordonner tous les travaux et de faire en sorte que, tout simplement, les insectes ne disparaissent pas.
Et donc, tu disais que ça existe, cette association existe depuis 1969. Tu as l'impression que est-ce qu'il y a des combats que tu penses que vous avez gagnés, qu'il y a des choses qui ont avancé grâce à l'association ?
Oui, il me semble qu'en tout cas, qu'effectivement, il y a des choses qui ont bougé. Alors, grâce à l'association, évidemment, mais aussi grâce au fait que la société change, c'est vrai que le regard sur les insectes a tendance ces 20 dernières années à bouger. On voit que on est de moins en moins obligé. Moi, ça fait 15 ans que je travaille pour l'OPI. Je suis de moins en moins obligé de montrer pourquoi les insectes sont indispensables à nos vies. Je trouve que c'est quelque chose qui de plus en plus rentre dans la tête des gens et ils se rendent compte que oui, en fait, notre vie, elle serait pas possible sans les insectes sur la planète Terre. Il y a toujours des espèces qui nous embêtent, clairement.
Oui. On a le moustique en tête. Hein, toujours,
on a le moustique, on a le frelon à pattes jaunes, on a toutes les petites bêtes qui vont faire des ravages dans l'agriculture.
Oui.
Mais nous, ce qu'on dit, et je pense que ce qui est vraiment rentré dans la tête des gens, c'est qu'on ne peut pas lutter contre ces bestioles qui nous embêtent sans faire vraiment attention à ce qu'on fait. Parce que le remède peut parfois être pire que le mal. Et sous prétexte de lutter contre une espèce, des fois, on va faire absolument n'importe quoi et massacrer tout le reste. Et donc, nous, notre rôle, c'est de bien faire en sorte de faire comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça, on parlait juste avant l'antenne, on parlait du fait que dans l'Office pour les insectes et l'environnement, il n'y a pas le mot protection.
Oui.
On n'est pas l'Office pour la protection des insectes et de l'environnement. Non, quand on parle du moustique tigre, qu'il y a des populations qu'il faut limiter parce qu'il y a un impact sur la santé publique, clairement, on ne va pas dire qu'il faut protéger le moustique tigre. On va faire en sorte de limiter les populations. Par contre, toujours faire en sorte que les mesures qu'on met en œuvre ne soient pas destructrices pour le reste de la biodiversité.
Par exemple, ce qu'on entend beaucoup, c'est d'éviter les points de stagnance. Par exemple, c'est une mesure qui est intéressante, ça.
C'est des choses qui sont extrêmement efficaces,
parce
que tout simplement, c'est une espèce, alors le moustique tigre en particulier, c'est une espèce qui vraiment adore être à côté de l'homme et qui profite de toutes les petites cavités pour pondre. Il n'y a que lui qui pond là-dedans, ce qui fait qu'il n'y a aucun prédateur.
Ouais.
Donc si on arrive à faire la chasse aux toutes petites cavités qu'on peut avoir partout, Le problème, c'est que des fois, c'est dans des communs, c'est pas forcément, chacun n'a pas forcément accès. Et ben, on peut effectivement limiter l'impact de cette espèce et les nuisances qu'elles peuvent provoquer.
Et ça, c'est une action qui n'a pas d'impact, par exemple, sur d'autres espèces d'insectes, en fait.
Tout à fait. Mais par contre, quand on en arrive au stade où on doit épandre un insecticide dans tout le quartier pour pouvoir limiter la bestiole, là, on arrive à quelque chose qui va avoir un fort impact.
Ça existe encore, ça ?
Bien sûr.
Ah ouais.
Bien sûr, il y a des zones urbaines dans lesquelles, à un moment donné, quand il y a trop d'insectes, quand il y a trop de moustiques-tigres, il y a des pouvoirs publics qui prennent des mesures où on évacue tout le quartier, okay. on demande aux gens de se calfeutrer, et on épand un insecticide, alors qu'il est censé être bio, mais c'est toujours pareil. Hein, c'est, généralement, c'est des choses qui se retrouvent dans les eaux, qui ont peut-être moins de rémanence, qui vont moins se retrouver dans les milieux que d'autres, mais qui ont toujours un impact. C'est systématique. Après, quand il y a une zone où on sait qu'on a une maladie qui est présente, comme chikungunya ou la dengue ou Zika, parce qu'on commence à avoir des cas autochtones, hein, clairement, en France, c'est-à-dire que c'est des maladies tropicales, et le moustique est un vecteur.
Ouais,
c'est pas le moustique, c'est pas le moustique qui le moustique qui ne fait que transmettre le vecteur, le pathogène qui va pouvoir provoquer la maladie. Quand on a des zones dans lesquelles il y a la maladie, oui, bah, ça peut paraître tout à fait judicieux de le faire.
Ouais, d'ailleurs, il y a eu pas mal de cas vers Bergerac, en Dordogne.
Ouais.
Tu parlais là justement de dépendre des insecticides dans toute une ville. C'est quoi un peu justement les actions qu'on pourrait que l'homme met en place qui sont nuisibles aux insectes
Eh ben, déjà, évidemment, les insecticides, c'est marqué dessus. L'utilisation d'insecticides
dans l'agriculture,
et puis ailleurs, c'est vraiment des choses qui peuvent être très dommageables. Et en fait, ce qui va provoquer généralement des problèmes d'insectes, c'est souvent l'absence d'autres insectes. C'est-à-dire, en fait, on simplifie à outrance. C'est-à-dire qu'on simplifie les milieux, on simplifie l'agriculture, on simplifie les jardins, on simplifie les villes. Quand je dis simplifier, c'est une belle prairie avec des bocages et des mares versus des parkings, des jardins avec que des tuyas et des pelouses tendues, et voilà. Donc les milieux sont simplifiés, les milieux de vie sont simplifiés, donc on n'a plus les espèces qui potentiellement peuvent limiter les espèces qui nous embêtent. Donc plus on simplifie, plus on a une espèce qui de temps en temps va tirer son épingle du jeu de ces milieux-là, va réussir à se débrouiller, va pulluler, et comme il n'y a rien d'autre, puisque le milieu a été simplifié, et ben tout simplement on va avoir des problèmes. C'est exactement la même chose en agriculture. Si vous avez 40 hectares d'une plante que vous cultivez, c'est gigantesque. Quand il y a un insecte qui potentiellement se débrouille très bien sur cette plante, arrive
c'est le paradis
volant,
pour elle. Quoi.
C'est le paradis pour elle. C'est le cas de la betterave et du puceron qui transmet la jaunisse. Bah, si vous avez de grandes parcelles comme ça, c'est le paradis pour elle. Et forcément, bah, y a rien autour qui peut limiter. Rien
tu me permets de rebondir, on parle aussi d'une perte de biodiversité. Et ça, c'est catastrophique.
Bah oui, et donc il y a des études... pas mal d'études qui vont dans le même sens, hein, qui disent qu'on a une perte massive de biodiversité ces dernières années, notamment une perte massive des insectes, juste de la quantité, hein, on ne parle pas de la diversité. Il y a une étude en Allemagne en 2017 qui a montré notamment que la quantité d'insectes volants avait diminué de 75 à 85% en 30 ans dans des zones naturelles protégées. Donc
ouais,
on se retrouve avec... Alors c'est ce qu'on appelle aussi, vous pouvez vous en rendre compte, hein, ce qu'on appelle le syndrome du pare-brise.
Oui.
Il y a 30 ans ou 40 ans, moi quand j'étais gamin, je me souviens qu'on s'arrêtait très souvent pour nettoyer le pare-brise. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. D'ailleurs, on a lancé un programme avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'association Noé, qui s'appelle Bugs Matter, qui est une déclinaison en France d'un programme anglais, où on fait appel à tous les citoyens. C'est un programme ce qu'on appelle de science participative. On fait appel à tous les citoyens pour, quand ils vont prendre leur voiture, lancer une application, de nettoyer leur plaque d'immatriculation avant de démarrer, lancer l'application qui va permettre de suivre le trajet, et à la fin du trajet, de prendre en photo la plaque d'immatriculation et de compter les insectes écrasés qui sont dessus. Et donc comme ça, on va pouvoir, comme la plaque d'immatriculation, c'est standard, c'est toujours à peu près la même hauteur, c'est vertical et c'est la même taille, et ben on va pouvoir comparer sur les trajets qui vont être faits. D'ailleurs, c'est depuis mi-avril, on a déjà plus de 500 000 km qui ont été parcourus quand même, avec 6 ou 7 000 par trajet qui ont été faits. Et donc après, les chercheurs, ils vont exploiter ça pour essayer de mettre en place un indicateur citoyen pour pouvoir suivre la quantité d'insectes volants et voir si on a une diminution ou une augmentation. On aimerait bien voir une augmentation, mais spoiler alerte, à mon avis, c'est pas prêt d'arriver.
C'est pas gagné.
Non.
Tu peux redonner, c'est un site internet ou une application ?
C'est une application que vous allez
pouvoir trouver. Tu peux redonner
son nom ? Ça s'appelle Bugs Matter. Donc Bugs, B-U-G-S, c'est comme les insectes, quoi, les petites bêtes.
Ouais.
Et Matter, c'est M-A-T-T-E-R, c'est en gros, ça veut dire les insectes, ça compte.
Ouais.
Et vous comptez les insectes, ça compte.
Ok, très bien, très intéressant. Ouais. Alors, on est déjà rentré un peu dans le vif du sujet directement avec toi.
mais on va revenir un peu à l'association. Donc là, on a parlé un peu de vos actions. Il y a aussi une maison des insectes qui est dans les Yvelines. C'est un peu le cœur, un peu, on va dire, de l'association, en tout cas de vos actions, où vous montrez peut-être de manière pédagogique aussi ce que vous faites, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, notre association, elle est vraiment basée sur des scientifiques. Mais on a aussi une action pédagogique qui est extrêmement importante. D'ailleurs, on a le pont entre les deux, hein, les programmes de sciences participatives. On en a d'autres, hein, on en a qui s'intéressent aux insectes pollinisateurs. Mais c'est vraiment le pont entre le purement scientifique et le purement pédagogique. C'est vraiment le pont entre les deux.
Ouais.
Et donc, sur le côté pédagogique, on a effectivement une maison des insectes à Carassou-Poissy dans les Yvelines, où on accueille du public depuis, on va dire, depuis la crèche quasiment, jusqu'aux maisons de retraite et maisons de repos. Pour pouvoir découvrir les insectes. Alors c'est une maison des insectes où on montre des insectes vivants toute l'année, donc c'est des insectes qu'on élève nous-mêmes. On est d'ailleurs en train peut-être de faire un peu notre évolution là-dessus. On réfléchit à est-ce qu'on va rester sur l'insecte vivant en élevage ou pas, parce que les questions de l'élevage se posent aussi sur les insectes. On est aussi situé dans un grand parc qui fait plusieurs dizaines d'hectares, qui s'appelle le parc du peuple de l'herbe, qui est donc justement conçu pour pouvoir tout simplement aller sensibiliser à la question des insectes avec des milieux naturels assez dingues dans les Yvelines. On vous emmène découvrir les insectes dans la nature, mais d'ailleurs je vous emmènerai tout à l'heure aussi pendant l'événement de l'été des Simples, là, découvrir les insectes dans le Jardin des Simples.
Tu vas animer une balade, c'est
oui,
ça.
D'accord,
ok. Et c'est à quelle heure?
C'est à 15h.
À 15h, très bien. Ah oui, faut pas qu'on traîne.
On n'a pas longtemps.
Oui, il y a le temps.
14h30.
Si vous n'êtes pas loin, dépêchez-vous, venez sur l'île pour suivre la balade avec Mathieu. Tu parlais de sciences participatives. Qu'est-ce que c'est exactement, les sciences participatives?
Alors, les sciences participatives, ce sont des programmes qui sont conçus avec des citoyens et des chercheurs pour pouvoir récupérer des informations que les chercheurs ne peuvent pas récupérer tout seuls. En gros, c'est tout citoyen est appelé à récupérer des informations sur les... Alors là, en l'occurrence, nous, c'est sur les insectes, mais il y a plein d'autres programmes qui sont sur autre chose.
Il y a la LPO aussi qui fait ça pour
les oiseaux. Ouais, voilà. Bah, nous, on a un peu l'équivalent, mais sur les insectes. Et par exemple, aujourd'hui, je parlerai notamment d'un programme qui s'appelle le suivi photographique des insectes pollinisateurs, où on fait appel aux personnes pour pouvoir aller avec leur smartphone, une application mobile qui est directement disponible sur les stores, de pouvoir aller photographier les insectes pollinisateurs qu'ils vont observer sur une plante en fleurs qu'ils auront choisie pendant 20 minutes précisément. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle un protocole scientifique. Donc 20 minutes d'observation sur une espèce de plante en fleurs qu'on a choisie. Si par exemple on fait, alors en ce moment il n'y en a pas, des pâquerettes et des pissenlits, mais si on fait dans une pelouse dans laquelle il y a des pissenlits, si on fait 20 minutes sur les pissenlits, on ne fait pas les pâquerettes, et inversement. On fait 20 minutes d'observation et ensuite on poste ça sur un site internet avec des identifications qu'on a fait, on vous fournit tous les outils qu'il faut. Et en fait, ce qui est vachement sympa, c'est qu'on a un côté, on a un site qui est communautaire, où en fait, on a une vraie communauté de participants qui est là pour vous accueillir, pour vous dire, pour vous aider sur les identifications, pour valider vos identifications aussi sur vos bestioles.
Okay.
Et en fait, en participant, alors déjà, on alimente un programme de sciences participatives avec un programme de recherche derrière de grande envergure. Aujourd'hui, depuis 2010, hein, le programme il existe depuis 2010, on a à peu près 100 000 collections de photos de 20 minutes qui ont été faites. Ça représente
100 000, ah oui, waouh,
énorme. Ouais. Ouais.
Et donc c'est énorme, et ça représente des masses de données que les chercheurs ne peuvent absolument pas récolter. Voilà.
Et par contre, ils peuvent les analyser, quoi.
Ouais, exactement.
Ouais, d'accord.
Elles sont mises à disposition des chercheurs.
Ouais.
Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que les participants, en participant, ils apprennent plein de choses.
C'est ça que j'avais demandé, exactement. Ouais.
J'ai plein de contributeurs qui me disent, mais moi, ça fait 20 ans que j'ai mon jardin, que je fais mon jardin. En une saison de Spipol, j'ai découvert beaucoup plus de bestioles qu'en 20 ans de jardin, parce qu'on met pas les mêmes yeux. Quand on regarde les plantes, quand on regarde les fleurs, on est focus là-dessus. Il y a même des observateurs, les premières années où on a fait des rencontres, parce qu'évidemment on se connaît sur le réseau, mais on a dû se rencontrer un peu tous, et on a des rencontres tous les ans maintenant. Des observateurs qui nous ont dit, mais ça devrait être remboursé par la sécu, c'est tellement un moment hors du temps
où,
on est complètement coupé de nos soucis, on va observer, on regarde, on découvre des couleurs, des formes qui sont complètement dingues, et ça détend vachement. Et en plus, les gens nous disent, je découvre des choses, mes données elles sont utilisées par des chercheurs qui exploitent ces données pour pouvoir étudier le fonctionnement des réseaux de pollinisation. C'est quelque chose qui est très très compliqué, il y a beaucoup de plantes en fleurs, il y a beaucoup d'insectes différents, et donc c'est des données qui sont assez inédites, et donc c'est tout bénéfice pour tout le monde.
Alors parce que ouais, c'est un peu le même phénomène qu'avec les plantes en fait. Quand on commence à s'y intéresser et à les reconnaître, le monde soudain est complètement différent quoi. Donc bah en là, fait c'est exactement la même chose en fait.
Ouais, et là en plus il y a le côté on fait plante plus insecte, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à une plante en fleur. Okay. Mais après donc on peut s'intéresser au côté botanique, mais nous ça nous intéresse évidemment d'avoir l'identification de la plante.
Ouais.
Alors on a PlanteNet qui est intégré directement, ce qui permet d'avoir une identification automatique. Mmh. Mais en plus derrière, bah, il faut se dire qu'il y a, on va pouvoir croiser en France, dans l'Hexagone, c'est entre 10 et 20 000 espèces d'insectes qui contribuent à la pollinisation.
D'accord.
Donc là, les insectes, c'est encore un autre monde que la botanique.
Ouais.
On est dans d'autres échelles de nombre d'espèces. Ouais. Et alors au début, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit, mais en fait, c'est tellement vaste que justement, au contraire, il ne faut pas avoir peur, on ne peut pas tout savoir.
Oui.
Nous, en tant qu'entomologistes, on découvre des choses tous les jours. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que tous les jours, on se dit, je suis étonné, je découvre quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est génial, c'est hyper passionnant.
D'ailleurs, souvent les entomologistes, en fait, ils sont spécialistes d'une famille, je sais pas comment on dit exactement.
Oui, ça peut être une famille, ça peut être un ordre. Souvent, c'est des familles parce que c'est plus petit.
Ouais.
Mais quand on connaît à peu près aujourd'hui dans l'Hexagone, on connaît à peu près 50 000 espèces d'insectes.
Okay.
Donc 50 000 espèces d'insectes, plusieurs vies n'y suffiraient pas. Donc en fait, généralement, moi j'ai des collègues qui sont extrêmement spécialisés sur les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages, c'est à peu près 1000 espèces en France. L'abeille domestique, je le rappelle, c'est une espèce qui est élevée.
1000 espèces d'abeilles ?
Oui, juste d'abeilles.
Wow,
oui. Et elles sont très très compliquées à identifier.
Wow.
Okay.
Donc j'ai des collègues, ça fait 30 ans qu'ils bossent sur les abeilles, ils n'ont toujours pas fait le tour. Voilà. Et donc j'ai un collègue qui s'intéresse à ce qu'on appelle les coléoptères, donc c'est scarabées, saproxylophages, c'est-à-dire en gros, c'est ceux qui mangent le bois mort.
Ouais.
Il y a une quantité de familles, enfin c'est des centaines de familles différentes,
okay.
C'est des milliers d'espèces différentes.
Les invertébrés benthiques, là c'est aussi un autre sujet.
Et en fait, c'est dément et c'est absolument passionnant.
Moi ça m'a fait penser, juste Fave, un petit écho à ces propos au Atlas de la biodiversité communale, c'est un peu dans ces mêmes registres où les gens sont invités à participer et puis on voit des passionnés de tous les horizons qui viennent chercher, s'intéresser à telle ou telle plante, insecte, qui ça permet aussi une synergie auprès des habitants, des habitantes pour donner ces données, on peut le dire, pour étudier à la suite.
L'Atlas des biodiversités communales, ce sont des dispositifs qui sont soutenus notamment par l'Office français de la biodiversité. Et il y a pas mal de données de sciences participatives dans les Atlas de biodiversité communale, parce que l'Atlas de la biodiversité communale, on va aller récupérer des données très précises par des entomologistes, des botanistes, etc. Mais aussi, il y a un volet sensibilisation et aussi mobilisation du public. Et donc, on va utiliser pas mal les programmes de sciences participatives pour mobiliser les gens, pour qu'ils prennent conscience qu'ils vont pouvoir, eux aussi, produire des observations sur la nature. Et que ces observations vont pouvoir être utilisées dans le cadre de l'Atlas dans les atlas de biodiversité commune.
Mmh. Parce que nous, on a un atlas de biodiversité à Gensiou qui s'est mis en place.
Gensiou, La Vidue et Folle-Montagne, en effet. Ouais.
Et il faut aller regarder aussi sur les sites des programmes de sciences participatives qui existent. Je sais par exemple sur sciencepeople.org, toutes les données sont accessibles directement. Et donc, vous pouvez aller zoomer et aller regarder s'il y a des données qui ont déjà été produites. Et s'il n'y en a pas qui ont été produites, il est urgent de commencer à en produire. Donc, il faut aller prendre son smartphone, installer l'application et commencer à aller observer des insectes sur les fleurs.
Comme on se rapproche du local, l'association, elle est nationale, mais vous avez des antennes régionales. Mais il n'y en a pas en Nouvelle-Aquitaine ?
Et non, malheureusement. Le truc, c'est qu'on a des antennes. Alors, on a en fait une antenne en langue de crouche. Ex-Languedoc-Roussillon, donc Occitanie maintenant.
Ouais.
Et puis après, on a des associations régionales. On en a une en Poitou-Charentes, on en a en Alpes-Provence, Alpes du Sud-Provence. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'association OPI en Nouvelle-Aquitaine.
Qu'est-ce que vous attendez ?
C'est-à-dire que, si pour vous dire un petit peu, c'est-à-dire que les insectes, ça fait moins rêver les gens que plein d'autres organismes. Et par exemple, on représente à peu près 50 000 espèces d'insectes. Et on est péniblement 2000 adhérents tous les ans. On a du mal à atteindre les 2000 adhérents, et pourtant c'est un seuil qui est quand même hyper important, notamment pour pouvoir être présent dans les instances représentatives au niveau national. Et on a du mal à l'atteindre parce qu'en fait ça fait pas forcément rêver les gens, et on n'est pas hyper bon d'un point de vue on a maintenant
communication.
Mais on fait d'énormes progrès, mais on n'a pas du tout de puissance de frappe comme certaines autres associations peuvent avoir. Et c'est vrai que bah, quand on parle oiseau tout de suite, il y a plein de gens qui y rappliquent. Quand on parle insecte, c'est un peu plus compliqué.
Mmh. Et si la phrase d'accroche serait « derrière chaque plante, il y a une grande famille d'insectes » et
ouais, mais on a essayé plein de choses. On a même été...
Lénie, c'est une pro de la com.
Ouais.
Hein.
On a même
fait récemment, on a été sélectionné dans le cadre d'un concours, on a été pris avec la régie publicitaire de M6 pour pouvoir faire une sorte de stage intensif avec les communicants pour pouvoir faire un spot, pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'il soit diffusé et essayer de recruter des adhérents. Mais c'est pas simple, c'est pas simple du tout. C'est vraiment un métier.
Il n'y a pas d'antenne, mais vous avez mis en place, ou vous allez, je ne sais pas trop, mettre en place un partenariat avec le parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin. C'est bien ça ?
On a déjà un partenariat avec le parc naturel.
En quoi ça consiste ?
Ça se termine même.
D'accord, ok.
C'est-à-dire qu'en fait, on a monté un gros programme qui s'appelle un LIFE, qui est donc un programme européen. Le LIFE, c'est en gros, l'outil monétaire armé entre guillemets de l'Europe pour les projets environnementaux. Et donc on a monté avec l'Agence régionale de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, avec un laboratoire de recherche qui s'appelle Biogeco à Bordeaux et les 5 parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine, on a monté un gros projet européen qui s'appelle un LIFE, qui s'appelle Wild Bees, qui est donc sur les abeilles sauvages. Et donc depuis 2021, on travaille sur les abeilles sauvages en Nouvelle-Aquitaine, où on a des spécialistes qui vont récupérer, parce que malheureusement les abeilles, on est obligé, pour les identifier, on est obligé de les tuer. Donc on fait ce qu'on appelle un échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va aller prendre un petit échantillon de la population locale pour ensuite l'analyser. Et donc on fait des échantillonnages depuis 2021 sur différents milieux qui sont très représentatifs, qui sont très intéressants en Nouvelle-Aquitaine. Et donc Mille Vaches en Limousin en fait partie. Ouais. Et donc le programme se termine cette année, donc les prélèvements se terminent cette année. Nous après à l'OPI, on a toutes les petites mains qui vont aller préparer tous les échantillons. On a des dizaines de milliers d'abeilles qui sont dans des boîtes d'échantillons, qui sont analysées, qui sont identifiées à l'espèce. C'est très compliqué à faire, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et après ces données, elles sont envoyées au laboratoire de recherche qui peut faire des statistiques et peut ensuite tout simplement produire de la connaissance pour mieux comprendre comment ces abeilles sauvages vivent dans ces milieux qui sont tout à fait caractéristiques de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et donc c'est la dernière année, mais vous allez quand même en entendre un petit peu parler d'ici la fin de l'année et puis l'année prochaine, puisque le programme est terminé en tant que tel, mais on a encore du boulot sur les échantillons qu'on
il y aura un bilan,
qui sera produit bien
sûr. Oui,
bien sûr.
Qui est très intéressant aussi.
Tout à fait.
Bah, merci Mathieu, j'en aurais bien continué à discuter avec toi, c'est passionnant. Le temps passe beaucoup, passe très vite.
Merci beaucoup.
Je te remercie beaucoup. Donc on rappelle, est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver un peu toutes les infos de l'OPI ?
Insectopluriel.org.
Insectopluriel, oh, bah, super, voilà. Très bien. Insectopluriel, ok.
Merci.
Très bien. Merci Mathieu, au revoir. Allez, une petite musique. Qu'est-ce que je vais vous mettre ? Ah bah tiens, une petite musique d'une artiste qui habite à Tours, mais aussi je sais qu'elle a une maison à Saint-Quentin-la-Chabanne. Elle sort un nouvel album très prochainement. Là, on a un premier extrait qui s'appelle La fille bleue. On écoute Borgefall sur Radio Vassivière en direct depuis l'été des simples. Allez, à ce lamp, cette petite musique, voilà, c'est bon, allez, c'est parti.